les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle.
Aujourd'hui, David Chekroun, professeur de droit des affaires à l'ESCP Business School, nous parle du contrôle des investissements étrangers en France. Épisode 4, les spécificités des fusions-acquisitions découlant du contrôle des investissements étrangers en France.
Dans le troisième épisode, nous avons pu constater avec notre invité Marianne Lavergne que le contrôle des investissements étrangers, c'est un droit et un régulateur, le bureau Multicom 4, au service de ce droit. Dans ce quatrième volet, nous allons présenter l'écosystème qui se forme autour de ce contrôle. Et pour découvrir cet écosystème, il faut partir non pas du régulateur, mais de ceux qui façonnent dès l'origine les investissements étrangers, c'est-à-dire les acteurs des fusions et acquisitions internationales. Rappelons que l'on parle d'une fusion internationale lorsque deux sociétés de pays différents forment une nouvelle entité. On est en présence d'une acquisition internationale lorsqu'une société d'un pays A acquiert une société d'un pays B et intègre ses activités aux siennes. C'est l'idée que 1 plus 1 égale 3, que grâce à ce 1 plus 1, aux synergies, à leur R&D, aux économies d'échelle et aux équipes des deux sociétés, on aboutisse à 3. Mais vous le savez sans doute, ce 3 est très incertain et en pratique, on atteint un plus 1,5 ou un divorce. Mais revenons à notre démonstration. Dans une opération de fusion-acquisition traditionnelle, l'écosystème rassemble le 1 plus 1, évidemment, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, ou les deux sociétés qui fusionnent, et avec elles, les actionnaires, le conseil d'administration, le comité de direction, sans oublier les syndicats et les autres parties prenantes. À ce noyau dur s'ajoutent les intermédiaires, les banques d'affaires, celles du vendeur en particulier, qui sélectionne avec son réseau et son expertise les acheteurs potentiels qui structurent financièrement l'opération. Les conseillers en stratégie qui réalisent des projections sur les opportunités des entreprises fusionnées. Les cabinets d'audit qui produisent des rapports sur les performances financières passées du vendeur, le fameux EBITDA, et sur les risques financiers liés à l'achat de la cible. Les fiscalistes qui structurent fiscalement l'opération et évidemment les cabinets d'avocats spécialisés dans le M&A qui interviennent durant la négociation, la rédaction de la documentation contractuelle, et je pense notamment au SPA, aux garanties de passif, et qui organisent juridiquement la cession ou l'achat de la société. Au total, on dénombre une dizaine d'acteurs traditionnels impliqués dans l'achat d'une société française par une entité étrangère. Ce sont les acteurs du contrat. Mais à ce contractuel s'ajoute le régulatoire. Et du régulatoire naît justement ce nouvel écosystème. En des termes simples, le régulatoire, c'est le pouvoir de l'État d'approuver, de modifier ou de refuser la vente ou l'achat d'une société. Et le régulatoire se décompose en 3 piliers. En 1, la concurrence ou en anglais « competition ». En 2, la conformité ou en anglais « compliance ». Et bien sûr, en 3, le contrôle des investissements étrangers ou en anglais « FDI control ». Passons en revue rapidement les deux premiers car ils ne sont pas à proprement parler l'objet de nos amphis, même s'ils ne sont pas étrangers à ce nouvel écosystème qui se forme. Alors, premier pilier, la concurrence ou « competition ». L'autorité de la concurrence et la Commission européenne examinent les projets de fusion-acquisition dépassant une certaine taille en veillant que ces opérations ne créent pas de monopole. Ce pilier qui a connu sa montée en puissance depuis les années 1990 oriente bien évidemment la structuration des fusions à acquisition et il faut intégrer ses régulateurs et les conseils des parties à cet écosystème. Deuxième pilier, la conformité ou compliance. Et sous ce pilier qui connaît une croissance exponentielle depuis les années 2000, on rassemble l'ensemble des processus mis en œuvre au sein des entreprises pour assurer le respect des règles, des normes ou de l'éthique qui s'imposent dans les secteurs régulés, santé, défense, assurance, technologie, et qui s'imposent en fonction de la taille de l'entreprise. Il faut également inclure les réglementations liées à l'anticorruption, FCPA, UK Bribery Act ou la loi Sapin 2, aux devoirs de vigilance, aux subventions étrangères, aux exportations et transferts de technologies, au matériel de guerre, ITAR en particulier, et les biens à double usage, EAR, qui ont le plus souvent une portée extraterritoriale. Dans cet écosystème, il faut donc intégrer ces régulateurs, mais aussi les conseils des investisseurs en France et à l'étranger. Et le troisième pilier, c'est bien évidemment le contrôle des investissements étrangers, ou, en anglais, FDI Control, qui connaît une explosion depuis la fin des années 2010 et qui, je le rappelle, concerne les opérations de fusion-acquisition internationale impliquant des secteurs sensibles. Alors comment ? Eh bien parce que l'article L151-3 du Code monétaire et financier, qui vous a déjà été présenté, accorde à l'État le pouvoir de dire oui, c'est-à-dire d'éprouver l'acquisition, de dire oui sous condition, c'est-à-dire de modifier l'opération, ou bien de dire non, c'est-à-dire de refuser l'acquisition par un investisseur étranger. À quel moment l'appareil d'État intervient-il ? Eh bien tôt, très tôt. Et c'est sans doute la spécificité de ce contrôle. L'État souhaite être associé le plus tôt possible à toutes les options économiques, stratégiques et opérationnelles envisagées par le vendeur ou la société cible française. C'est ainsi que l'État s'invite à la table des négociations, selon l'expression consacrée par Pascal Duperat dans son ouvrage sur la sécurité économique et la souveraineté industrielle. Et cette présence à la table des négociations n'est pas toujours limpide, et l'observateur ou l'acteur même éclairé ne perçoit pas toujours la doctrine derrière le droit. L'explication est à l'évidence que cette présence tient compte des seules circonstances de fait, l'investissement, l'investisseur étranger, son honorabilité, ses ambitions, la sensibilité de l'activité de la société française cible. En d'autres termes, l'appréciation de l'État sur sa souveraineté se réalise in concreto, selon une méthode très casuistique, comme vous l'a présenté le régulateur dans l'épisode 3. Mais une seconde explication peut être formulée, et c'est cette explication que je veux étudier avec vous. L'État présente 5 visages, et ce sont ces visages qui sont la source de ce nouvel écosystème. J'ai recours à la notion de visage de l'État et non aux fonctions de l'État, notion bien connue de nos auditeurs, car notre travail d'analyse porte aussi sur ce que l'État donne à voir à ses usagers, à ses partenaires et aux investisseurs étrangers, et aussi se donne à voir. 5. Ce sont le nombre de visages de l'État que l'on rencontre dans le champ du M&A dans les secteurs sensibles. Alors, premier visage de l'État. Il s'agit du visage de l'organisation qui tente d'attirer les investissements étrangers, et ce depuis plusieurs décennies, pour les raisons exposées dans l'épisode 2, et que je rappelle brièvement ici. Stimuler la croissance, favoriser les exportations et l'emploi, réaliser des transferts de technologie. Mais dans le cas particulier de la France, la recherche de financement étranger est rendue encore plus nécessaire en raison des spécificités du capitalisme hexagonal, du système de retraite par répartition et par voie de conséquence de l'absence de fonds de pension. Or, le développement des entreprises françaises nécessite des investissements massifs et le recours à des fonds de pension et des fonds de capital investissement étrangers, y compris dans les secteurs stratégiques comme la tech, l'énergie et la santé, est une nécessité. Mais l'État, c'est aussi le visage de l'organisation qui ferme la porte aux capitaux étrangers pour préserver sa souveraineté économique et industrielle. Et c'est cette difficile articulation que nous avons présentée dans les deux premiers épisodes et que l'on observe dans la communication officielle de l'État. Permettez-moi d'en donner un exemple récent. Le 9 mai 2023, publication et communication gouvernementale autour du rapport annuel d'activité relatif au contrôle des investissements étrangers en France. Le 11 mai 2023, communication gouvernementale autour de l'attractivité de la France, pays, et je cite, le plus attractif en Europe. Le 15 mai 2023, sommet présidentiel Choose France en majesté à Versailles pour attirer les investisseurs étrangers, les industries de la santé et Elon Musk. Deuxième visage de l'État, le visage du producteur prolifique et impulsif de normes. Et quand je vise l'État ici, je vise le pouvoir réglementaire, car le Parlement intervient peu, très peu. Trois interventions depuis 1958. En 1966, sous la présidence de Charles de Gaulle pour la grande loi d'ouverture. En 1996, pour les relations financières avec l'étranger. En 2019, pour le contrôle renforcé avec la loi Pacte. Pour l'essentiel donc, c'est l'intervention du pouvoir réglementaire qui a fait évoluer le cadre juridique par un empilement illisible de textes successifs. C'est surtout une source d'incertitude pour ceux qui structurent un investissement que d'observer une réglementation changeante par la volonté de l'exécutif sur simple arrêté ministériel. Prenons un exemple. Le 28 avril 2020, du jour au lendemain, les biotech ont intégré le champ des secteurs stratégiques, bouleversant l'économie du M&A dans ce secteur. On ne manquera pas non plus d'être surpris par la déclaration du ministre des Armées intervenue sans crier gare très récemment, le 25 mai 2023 à l'Assemblée nationale, et qui évoque un dispositif nouveau qui permet, je cite, de bloquer un certain nombre d'investissements étrangers en France. Alors justement, restons un instant sur cette déclaration du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui est révélateur du troisième visage de l'État, l'État régulateur. Le ministre évoque un nouveau dispositif, alors que nous le pensions stabilisé, mais il vient surtout mettre son veto au rachat du français Sego, cette entreprise de robinetterie qui équipe les sous-marins nucléaires français, par l'américain Flowserv. Or, vous vous souvenez que le droit donne au ministre chargé de l'économie une compétence exclusive pour réaliser ce contrôle, et non le ministre des Armées. Alors, vous me direz, dans l'affaire Photonis, évoquée dans le premier épisode, on avait pu constater que c'était le ministre des Armées, Florence Parly, qui avait refusé l'acquisition de cette entreprise spécialisée dans l'électronique optique par l'américain Teledyne. Est-ce un hasard ? Cela révèle à tous, au grand public et aux opérateurs, les tensions qui se jouent au sein de l'appareil d'État. Car si la porte d'entrée des demandes d'autorisation est située à Bercy, auprès du ministère de l'Économie et de la Direction générale du Trésor, l'instruction fait aussi appel aux autres administrations, DGA, Agriculture, Santé, Recherche, Éducation, en fonction de l'activité de la société cible. Et tous les ministères ne sont pas toujours aussi ouverts aux investisseurs étrangers que le ministère de l'économie. L'interministérialité est source de tensions et les négociations au sein de l'État ont un impact sur l'écosystème qui se forme autour des investissements internationaux. Quatrième visage qui prolonge le troisième mais qui le dépasse par son ampleur, c'est l'irruption du pouvoir politique. L'État politique, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir décentralisé, dans les rachats d'entreprises françaises depuis 2014 et la vente controversée d'Alstom Energy à General Electric. Cette émiction est désormais fréquente et quasi systématique dans les opérations présentant un caractère symbolique fort, Comme vous avez pu le constater, dans les affaires Carrefour-Couche-Tard, Photonis-Teledyne, Sego-Flowserve. Certes, avant 2014, les héros AUTS de la souveraineté économique se sont manifestés. En 2013, refus du rachat de Dailymotion par Yahoo et la déclaration du ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, la France n'a pas besoin de capitaux prédateurs.
Nous ne pensons pas que ce soit une bonne opération d'abandonner Dailymotion entre les mains d'une société, Yahoo, dont la santé est parfois vacillante et qui, de surcroît, risque de dévorer, faire disparaître Dailymotion. Donc, le gouvernement fait son travail.
En 2005, le président de la République, Jacques Chirac, le Premier ministre, Dominique de Villepin, le ministre de l'Économie, Thierry Breton, se sont montrés particulièrement vigilants et mobilisés, et je cite leur déclaration, pour défendre Danone face à l'américain PepsiCo. Mais ces quelques exemples antérieurs à 2014 ne sont pas les arbres qui cachent la forêt et ne peuvent pas être comparés au monde post-2014. On pourra également objecter qu'en France, parmi les milliers de projets d'investissement étrangers, 1725 très exactement en 2022, seulement quelques opérations font l'objet d'un contrôle IEF. Et encore moins d'intervention du pouvoir politique. Certes, mais cela n'invalide pas la montée en puissance ou du risque de montée en puissance du politique dans les rachats d'entreprises françaises par des investisseurs étrangers. Et ce, d'autant plus que le pouvoir n'est plus seulement l'affaire du pouvoir exécutif, il faut désormais compter avec le Parlement. Parlement qui dispose du pouvoir de contrôle de l'article L151-7 du CMF prévu par la loi Pacte de 2019 et le recours aux commissions d'enquête parlementaire comme celle que vous avez connue sur les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France ou sur les décisions de l'État en matière de politique industrielle, notamment dans les cas d'Alstom, d'Alcatel et de STX. Et bien évidemment, les séances de questions d'actualité au gouvernement. Le pouvoir est aussi celui de l'État décentralisé et des collectivités territoriales. L'affaire Latécoère est certainement l'exemple le plus éclairant. Alors, quelle est-elle cette affaire ? En 2019, le fonds Searchlight annonce vouloir lancer une OPA sur l'équipementier toulousain Latécoère. Des élus et des syndicats s'y opposent. Ils vont mobiliser le président du Conseil économique, social et environnemental régional qui écrira au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pour l'alerter sur les risques de perte de souveraineté. 17 députés de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées vont également écrire au Premier ministre. Ils vont aussi mobiliser le maire de Toulouse et le conseil départemental de Haute-Garonne qui vont s'exprimer publiquement en faveur de l'entreprise toulousaine. En définitive, le régulateur autorisera Searchlight à prendre le contrôle de Latécoère, assortissant toutefois cette autorisation de conditions, en particulier un changement de l'actionnariat et la nomination d'un administrateur. Alors justement, cette autorisation sous conditions préfigure le cinquième et dernier visage de l'État, l'État financeur, celui qui tente de trouver des solutions financières alternatives ou complémentaires après une décision de refus ou une autorisation sous condition. Implication d'autant plus nécessaire et urgente que l'entreprise française peut être déjà en état de cessation des paiements ou en redressement judiciaire. Cette implication se réalise par le concours de l'État banquier et de l'État actionnaire. Alors, pour l'État actionnaire, le bras armé est l'Agence des participations de l'État, APE, qui se charge d'investir dans les entreprises stratégiques qui contribuent à la souveraineté industrielle et économique. On peut citer EDF, Orano, Thales, Nexter, Safran, Naval Group et bien d'autres. L'APE réalise ses investissements par des golden shares, des actions spécifiques qui lui permettent de disposer de prérogatives exorbitantes du droit commun au capital d'une entreprise, mais aussi de conventions ad hoc. Alors maintenant, l'État banquier, c'est la mission assignée à BPI France, la banque publique d'investissement qui agit seule ou avec des fonds français comme ACE. Alors j'ai dit 5 visages et non 6, car celui de la justice est absent du tableau. Certes, en droit, article L151-3 du Code monétaire et financier, les décisions du ministre relatives à l'autorisation préalable sont susceptibles d'un recours de plein contentieux devant le juge administratif. Mais en pratique, les recours sont très rares. On compte 2 ou 3 décisions, car les investisseurs étrangers hésitent à 2 fois avant de saisir le tribunal administratif sur des décisions qui, par nature, ne sont pas rendues publiques et qui, par essence, relèvent de la souveraineté nationale. Alors, la situation est-elle vraiment différente à l'étranger ? Non. Et notre enquête nous l'a confirmé. Et les contrôles et rachats controversés du port de New York par les Dubaïotes aux États-Unis ou l'achat du port de Hambourg par la Chine en Allemagne, que vous avez pu lire dans la presse, ne manqueront pas de vous en convaincre. Aussi, en France comme ailleurs, s'ajoutent à l'écosystème traditionnel les agents de l'État, à savoir les ministres, les parlementaires, les élus des collectivités territoriales, les directrices et directeurs d'administration centrale, la BPI, l'APE, pour ne citer que quelques-uns. En ce qui concerne les acteurs privés traditionnels, la prise en compte du renforcement du contrôle et de l'aléa que représente la présence de l'État à la table des négociations a des effets très concrets et très directs sur la structuration des fusions-acquisitions. Du côté du vendeur, ces aléas orientent le choix de la procédure de vente, enchère ou gré à gré. Ils orientent l'équipe qui l'accompagne. Ils orientent aussi la sélection des acheteurs potentiels et leur nationalité est évidemment prise en compte. En effet, bon nombre de vendeurs et de conseils établissent des stratégies différentes en présence d'un investisseur italien, américain ou chinois, alors qu'en droit, la nationalité étrangère de l'investisseur est inopérante. Alors, du côté de l'acheteur, les risques sont renforcés car l'anticipation du contrôle et les exigences éventuelles de l'État relèvent de la seule responsabilité de l'investisseur étranger. C'est donc à l'acheteur potentiel de réaliser toutes les enquêtes afin de déterminer la sensibilité de la transaction. Et cette enquête ne peut pas toujours reposer sur des informations publiques. Par ailleurs, ils doivent décider du multifiling, c'est-à-dire des stratégies, des procédures de contrôle dans les pays où sont établies les filiales de la société française. Enfin, lors de l'intégration de la cible, l'acquéreur étranger doit intégrer les engagements éventuels imposés par l'État postérieurement à la transaction, comme, par exemple, interdire la fermeture d'un site, maintenir la R&D en France ou nommer des administrateurs. En ce qui concerne les nouveaux acteurs privés, ils sont tous en proximité avec l'appareil d'État et sont tous liés au déplacement du centre de gravité du M&A dans les secteurs stratégiques. On en dénombre 3. Les représentants d'intérêts aux lobbyistes, qui se livrent à des audits institutionnels et qui participent à la structuration de l'opération en tentant d'intégrer et d'accompagner les contraintes de l'État. Leur rôle devrait être renforcé dans la mesure où la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, HATVP, oblige que les entrées en communication avec un responsable public aux fins d'influence sur une décision publique doivent être enregistrées sur le répertoire des représentants d'intérêt. Il deviendra donc de plus en plus difficile que les entreprises, les conseils, les banquiers ou les consultants, parfois même issus de l'administration française, s'ouvrent directement et informellement des projets d'acquisition avec les pouvoirs publics dans les différents ministères, à Matignon ou à l'Élysée. Alors ensuite, les agences de communication. qui mettent en place des véritables stratégies pour présenter, expliquer et intégrer un plan de communication à destination des pouvoirs publics, de l'opinion publique, des syndicats, des investisseurs, des médias et même des réseaux sociaux. Les exemples sont nombreux et les situations ne manquent parfois pas de piquant. Un entrepreneur, par exemple, déclare pendant plusieurs années qu'il participe à la souveraineté technologique française, à la French Tech, et opportunément change de discours lorsqu'il souhaite se faire racheter par un fonds d'investissement américain. Troisième catégorie, les journalistes de presse spécialisés dans le M&A, qui sont des acteurs essentiels pour informer le grand public. Ils interviennent généralement avant la révélation au public par un tiers, par les partis, par des représentants syndicaux ou même par des élus. Ces journalistes appartiennent à cet écosystème et entretiennent avec l'ensemble des acteurs un rapport de retenue en protégeant l'anonymat des sources, en garantissant la véracité de l'information et dans la mesure du possible, l'équilibre des points de vue. Alors, on ne peut pas conclure cette présentation de ce nouvel écosystème sans s'intéresser à la doctrine et en premier lieu à l'OCDE qui dresse un inventaire des tendances, diffuse des informations précieuses sur les différents dispositifs et conseille législateurs. Dans les pays anglo-américains, une littérature abondante est disponible. La matière y est conceptualisée et enseignée. En France, la matière est, dirons-nous, en devenir, et la production de notes est l'affaire des praticiens. Espérons qu'à l'avenir, les chercheurs français investiront ce champ d'études encore très neuf et réfléchiront à cet écosystème nouveau qui rassemble les entreprises françaises et étrangères, les fonds d'investissement, les cabinets d'avocats, les banques d'affaires, les cabinets de conseil, les auditeurs, les lobbyistes, les spécialistes d'intelligence économique, les agences de communication, les pouvoirs publics français et européens, les différents ministères, les parlementaires et bien d'autres, sous l'œil d'un public désormais exigeant, nourri lui-même par le travail des journalistes et bientôt donc des chercheurs. Prochain épisode, épisode 5, j'aurai le plaisir d'inviter Hubert Seguin, avocat associé responsable de l'équipe corporate du bureau de Paris de Herbert Smith Freehills, pour évoquer les nouvelles pratiques qui se dessinent autour des questions spécifiques de ce que l'on nomme les fusions-acquisitions international.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé et réalisé par Léobardo Arango. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.